Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir en écoutant déjà le générique. Vous comprenez que nous démarrons l'émission Club de la Presse ainsi. Nous sommes au vendredi 8 novembre 2024. Il est 11h sur votre radio et là, vous comprenez que l'émission Club de la Presse démarre et c'est le cinquième numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos médias partenaires, des radios bien sûr, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaouen. Là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Nous sommes également très heureux de ce que vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, de l'Afrique, le continent africain bien sûr et aussi du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Je remercie. Nous allons bien.
C'est l'essentiel. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci pour l'invitation.
L'autre qui est aussi élégant ce matin, c'est Thierry Afanoukou et dans sa veste. Thierry, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Ah, on rend grâce à Dieu et merci pour l'invitation.
D'accord. Merci à toi aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et l'autre qui n'est pas moins élégant aussi hein, ce matin, c'est Gabin Adjaro. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux aînés ici présents, bonjour aux téléspectatrices et aux auditrices.
Justement, je te comprends. Tu dois passer un petit temps d'abord avant de rentrer dans le bain.
Bonjour aux auditrices et auditeurs de la meilleure radio Canal FM et à tous les internautes qui nous suivent.
J'espère que vous allez bien.
Ah oui, ça va.
D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous sommes aussi avec Dr Kossi Aradi ce matin. Nous l'avons promis et donc nous respectons justement notre parole. Dr Aradi, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
Dieu merci. Oui. C'est vrai que ce mois de novembre est consacré à Novembre Bleu.
Oui.
Le concept Novembre Bleu qui doit rentrer maintenant dans les habitudes parce que Octobre Rose est rentré alors dans les habitudes qui parle plus alors des cancers chez la femme. Mmh. Et Novembre Bleu, c'est plutôt des maladies liées à la prostate.
Tout à fait. Tout à fait. Novembre Bleu, c'est les maladies masculines. Hein, la prévention des maladies masculines, la lutte contre les maladies masculines et surtout les maladies liées à la prostate. La prostate et les testicules. Donc voilà ce que c'est que Novembre Bleu. Il s'agit de faire une mobilisation globale, une mobilisation des institutions, une mobilisation des familles, une mobilisation des couples, une mobilisation des populations pour que toutes ces personnes-là, tous ces acteurs s'investissent dans la lutte contre les maladies de l'homme. Mmh. L'homme petit H.
Tout à fait.
Voilà.
L'homme sexe masculin.
C'est l'homme sexe masculin. Mmh. Et donc, tout tourne autour de l'arbre urinaire.
Voilà, ça tombe bien. C'est vrai que dans ce studio, il n'y a que alors des hommes. Il n'y a que des hommes et ça se comprend. Et là, je pense que le message doit être adressé directement à ceux qui sont en studio.
Non, maman. Et je comprends pourquoi ils ont rivé les yeux sur moi.
D'accord. Alors, docteur, le constat est quoi?
Oui.
C'est sûr, quel constat vous avez initié alors ce concept, c'est vrai que sous d'autres cieux, le concept existe, hein, sous d'autres cieux, Novembre Bleu. Mm. Mais c'est quoi le constat?
Le constat est simple et réel. C'est que l'homme, petit H, le garçon, n'aime pas se faire consulter et n'aime pas aller en consultant, n'aime pas fréquenter les centres de santé. Il s'intéresse à une fille, il amène la fille en consultation. Après, c'est le mariage. Après, ils font le bilan prénuptial. Après le mariage, il amène la fille pour les questions de conception. Après, la femme tombe enceinte. Ils vont en consultation prénatale. Après, l'enfant est né. Ils vont en consultation postnatale. Il s'occupe de la femme, s'occupe de l'enfant, mais lui-même se néglige. Il ne va pas en consultation. Donc, c'est ça le constat.
Mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de moyens ou bien c'est la négligence?
Oui, oui, c'est la négligence. D'une part, c'est la négligence. D'un autre côté, c'est que l'homme, il y a toujours une pudeur par rapport à l'homme, hein, l'homme par rapport à sa santé. Parce que quand nous parlons des organes intimes, nous parlons de l'arbre urinaire, l'homme se dit, ben, il ne peut pas aller se livrer à une consultation pour qu'on puisse toucher à ses testicules, pour qu'on puisse toucher à sa prostate, et pour qu'on puisse regarder son pénis. Vous voyez, non, l'homme, il se dit, bon, la femme, je comprends, parce qu'elle va tomber grosse, et puis il faut qu'on fasse la consultation prénatale, donc les sages-femmes, les accoucheurs peuvent regarder là-bas, mais moi, homme, pourquoi je vais aller me livrer? Pourquoi? Vous voyez, non?
Car c'est sacré pour lui.
C'est sacré pour lui. C'est sacré pour lui. Donc, les enfants peuvent aller. Madame peut aller, mais pas lui. Pas lui. Donc, c'était ça le problème. Et c'est ça encore aujourd'hui. Les hommes consultent peu. Et les hommes se soucient peu de leur santé. Alors qu'ils sont le moteur du couple. C'est eux qui conduisent le couple. Et donc, quand l'homme a des problèmes, ça veut dire que c'est tout le couple qui est parti. Et c'est très important, c'est à cause de ça que on a initié Novembre Bleu. Pour un, la prise de conscience, faire prendre conscience aux hommes que il court pour la famille, mais il doit se regarder lui aussi. Il doit s'accorder une attention particulière. Et au même moment, sensibiliser toute la société que en appui. À ce qu'on fait déjà à la femme, il faut qu'on regarde l'homme et qu'on aide l'homme à se regarder et à aller en consultation, à se préoccuper de sa santé.
Mmh. Il faut que l'homme s'intéresse à sa propre santé, c'est très important. Mmh. Alors c'est vrai que le lancement officiel c'était le mardi dernier,
c'était le mardi.
Et c'est l'association Eagle Africa International qui a fait ce lancement avec ses différents partenaires. Justement. Il y avait même d'ailleurs le ministère de la Santé également qui était présent avec d'autres partenaires sur le sujet. Mmh. Alors au cours alors de cette campagne, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler?
Très bien. Comme la campagne a déjà commencé le mardi, c'est une opportunité de sensibiliser la population, comme nous le faisons actuellement. Et donc, nous devons aller dans tous les coins et recoins, dans les mosquées, dans les couvents, dans les églises, dans les associations, dans les maisons, pour sensibiliser la population. Ça, c'est un. Deux, maintenant, il faut donner l'opportunité à l'accès aux services. C'est-à-dire quoi? Il faut donner l'opportunité à l'homme de venir en consultation et de venir faire des examens, les différents examens. Il y a des examens sanguins, il y a des examens d'imagerie médicale. Il faut donner cette opportunité, c'est ce que nous faisons. Donc, tout le mois de novembre, les hommes sont reçus en consultation. Les hommes sont reçus pour les examens sanguins. Notamment, il y a un examen très capital que nous appelons le PSA. Mais quand nous faisons le PSA, nous regardons, ça c'est par rapport à la prostate, mais nous regardons en même temps les autres organes autour de lui, les reins, le pancréas, le foie. Nous regardons les autres organes, les testicules. Maintenant, il y a l'échographie de l'arbre urinaire. Cette échographie nous permet de regarder depuis les reins jusqu'aux urétères, la vessie, la prostate, le vésicule séminal, l'urètre, pour regarder comment tous ces organes-là fonctionnent. Donc, ça nous permet d'aider les hommes. Et donc, ces examens sont disponibles tout le mois. Et à un coût très, 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 très réduit. Le mardi, nous avons fait la gratuité. Mais maintenant, ce n'est plus la gratuité, mais à un coût vraiment très réduit, abordable pour tout le monde.
Mmh. D'accord, les gars, c'est vrai que il est question de nous les hommes. Mmh. Je sais sûrement que vous avez des questions à poser à Dr Aradzi Kossi pour ses explications. J'aimerais.
Oui, ben, je crois qu'il attire notre attention sur quelque chose d'assez important. Maintenant, qui sont les spécialistes?
Pendant la campagne, les spécialistes en urologie consultent. Donc tous ceux qui viennent seront consultés par des urologues et des spécialistes des questions de prévention de la prostate, c'est-à-dire la prévention de toutes les affections de la prostate. Donc voilà les spécialistes qui reçoivent et qui consultent spécialement pour les hommes. Alors là, pour la clinique, il y a beaucoup d'unités. Il y a la médecine générale, donc les gens peuvent continuer à venir en consultation pour tout problème de santé en médecine générale. Nous avons la consultation en gynécologie, et donc les gynécologues qui connaissent spécialement, c'est les jeudis et les samedis. Nous avons la consultation en pédiatrie, les mercredis. Et donc le mercredi prochain, nous avons la consultation en pédiatrie. Et docteur Agboubli, qui est pédiatre, qui va consulter, est en train de dire qu'elle veut vraiment faire la gratuité le mercredi prochain pour les enfants. Et donc, nous avons les spécialistes en chiropratie. Chiropratie, c'est tout ce qui concerne la colonne vertébrale. Les maladies de la colonne vertébrale, notamment les pincements discaux, les hernies discales, les problèmes sciatiques. Et donc, ces spécialistes-là aussi sont là pour pouvoir consulter. Et nous avons le laboratoire, tout se fait chez nous là-bas, le laboratoire avec les services d'échographie qui se font directement chez nous sur le site.
Au siège de l'association
IGAFRICA International. Tocoin Trésor, quand vous arrivez à Tocoin Ranco, vous continuez en allant vers Tocoin Ancien Trésor, vous allez trouver une agence de l'UTB à votre gauche, et en face de l'agence de l'UTB, vous tournez à droite, vous rentrez dans le corner. Troisième immeuble à droite, vous êtes arrivé à la clinique Eagle African International.
D'accord. Thierry, nous sommes interpellés.
Alors, oui, vraiment. Comme il parle de prostate, j'aimerais savoir, et surtout des hommes, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une prédisposition des hommes à cette maladie. Merci. Est-ce que tout homme est exposé à faire la maladie de prostate?
Bien, merci.
Il semble qu'il y a les maladies de prostate.
Il y a les maladies. Tout à fait. Maladies, il y a plusieurs maladies de la prostate. Mm. Pour certaines maladies, nous pouvons dire que le simple fait d'être homme et d'avoir une prostate peut vous amener à avoir ce que nous appelons l'hypertrophie bénigne de la prostate à un âge donné. Mais pour les autres maladies, par exemple la prostatite, tout homme n'est pas susceptible d'avoir là une prostatite, parce qu'une prostatite, c'est une infection. Voilà, c'est un germe, ou c'est des germes qui transmettent la prostatite. Et donc, si on fait bien une prévention, si on prend des mesures, on prend des précautions pour se protéger, on peut ne pas avoir une prostatite toute sa vie. Voilà, de même que le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, il y a plusieurs facteurs de risque qui concourent à ce cancer. Et donc, quand on a un mode de vie sain, quand on prend des dispositions pour éviter les facteurs de risque. Donc,
qu'est-ce que vous mettez dans le mode de vie sain?
Les facteurs de risque. Parce qu'il ne faut pas parler. Ou bien, docteur, voudrait qu'on puisse faire le déplacement.
Voilà!
Nous avons ce privilège-là de l'avoir en face
tout,
de nous.
Tout à fait. Mais mettez-nous alors de l'eau à la bouche. Par rapport surtout, je suivais même d'ailleurs l'un des docteurs la fois passée qui nous donnait des cadeaux. Oui. Des cadeaux en matière alors des facteurs de risque et ce que nous pouvons même d'ailleurs faire pour prévenir la maladie. Donc c'est aussi le moment.
Le premier élément pour la prévention des maladies de la prostate, c'est de connaître sa prostate. C'est-à-dire qu'il faut aller en consultation, il faut faire un dépistage pour connaître l'état de sa prostate. Maintenant, à partir de là, il y a un certain nombre de trucs qu'il faut éviter, notamment la consommation des produits qui sont dosés en engrais chimiques et en pesticides.
Ça serait compliqué. Comment reconnaître
voilà.
Puisque nous sommes envahis par ces produits chimiques.
Voilà, exactement. Vous voyez, non? C'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle nous attirons l'attention et que nous mettons en place tout un mécanisme, tout un dispositif pour aider. Pour aider. Parce que il y a l'aspect prévention et traitement en termes de médicaments ou de produits qu'on n'a pas encore vraiment analysés. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent aux hommes aujourd'hui de minimiser l'effet des engrais chimiques et des pesticides sur leur vagin. Maintenant, je continue. Il y a le sucre. qui est un aliment extrêmement dangereux.
C'est un ennemi de la prostate.
C'est un ennemi de la prostate. Il y a les stupéfiants qui sont des ennemis de la prostate. Oui. Donc.
On parle même de l'alcool.
L'alcool aussi. Et l'inactivité physique. L'inactivité physique aussi est un ennemi de la prostate. Oui, il y a tout ça.
Quoi? Les activités physiques, vous dites?
Inactivité.
Ah, l'inactivité, d'accord.
L'inactivité physique.
D'accord.
C'est-à-dire le fait de ne pas
faire les activités
régulièrement.
Le sport.
Oui, oui. Mm. Ouais, ouais. Ça peut embêter la prostate.
La prostate. Mm.
Voilà. Donc, c'est pour dire que notre ami parlait avant s'il y avait des prédispositions. Oui, dans certaines familles, il y a des prédispositions. Parce que les questions de la prostate, surtout le cancer de la prostate, a des éléments, des facteurs génétiques dans certaines familles. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un avait déjà fait un problème de la prostate dans la famille, les enfants de cette famille-là sont vraiment à risque et donc doivent prendre toutes les dispositions pour éviter ces maladies.
Mmh. Docteur, si vous parlez des ennemis de la prostate, ça veut dire qu'il y a des amis de la prostate aussi.
Oui, il y a des ennemis. Donc, nous avons une conférence. Nous avons une conférence.
mais ce qui est sûr, je sais que la tomate constitue un ami de la prostate.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Et il faut en consommer.
Il faut en consommer.
La tomate.
La tomate.
Fraîche.
La tomate fraîche, il faut en consommer.
Et quoi d'autre?
Bon, il faut venir à la conférence.
Gabriel, qu'est-ce que docteur?
Oui, bon, puisque le docteur veut que forcément on vienne à la conférence. Bon, moi, tout ce que je voudrais, c'est que je veux l'encourager à continuer à faire la sensibilisation. Mm-hmm. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de novembre bleu. Beaucoup de personnes ne savent pas. Moi, j'en ai entendu parler en 2012. Mm-hmm. J'en ai entendu parler, mais après, il n'y a pas eu tellement de promotion par rapport à ça. Contrairement à Octobre Rose. Voilà. Octobre Rose, nous-mêmes, les hommes, on met des insignes.
Des rubans.
Des rubans. Sur nos habits et autres là, mais nous sommes en novembre bleu et vous ne verrez nulle part des gens mettre de rubans bleus sur leur costume et tout ça. La preuve est que même les hommes ne sont pas au courant de vous. Voilà. Même les hommes ne sont pas au courant du novembre bleu. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus de communication autour de cette histoire. On fait tellement de promotion à la femme que parfois on oublie que le chef de la famille lui-même il souffre d'énormes maux. Il va falloir y réfléchir et communiquer tout autour pour toucher beaucoup plus de personnes.
Tout à fait.
Et finalement, pour la conférence, c'est quand et cette conférence aura lieu?
La conférence, c'est le mardi prochain que nous aurons la conférence, le matin, déjà à partir de 8h, pour vraiment expliquer ce que c'est que la prostate, les maladies de la prostate, les facteurs de risque, les symptômes surtout, les symptômes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour une bonne prévention des maladies de la prostate. Et en même temps, nous allons encore bien présenter notre Prostate Champion Center. Le Prostate Champion Center, on a vous a dit, expliqué que c'est une plateforme des chercheurs, des médecins, urologues, médecins généralistes, les pharmaciens, les experts en laboratoire et les naturopathes pour étudier les cellules de la prostate davantage, les cellules de la prostate en Afrique. Parce que quand nous parlons des problèmes de la prostate, c'est pas la même chose sur tous les cieux ou sur tous les continents. La race noire est plus exposée et le problème est plus crucial chez la race noire. Et donc il faut que nous maintenant, les noirs, nous puissions étudier notre prostate à fond afin de pouvoir sortir les solutions, la technologie et les médicaments les plus appropriés pour soigner notre prostate.
Mais est-ce qu'il y a des médicaments appropriés?
Il y a des produits. Déjà, nos premières recherches nous ont amené à des produits. Aujourd'hui, nous avons le e-prosta. Il y a un produit que nous appelons le e-prosta, qui est un produit qui permet de réguler le taux du PSA. Le taux du PSA, vous prenez le e-prosta en prévention, oui, votre PSA va rester à un taux inférieur à 4. Alors que quand... Vous ne prenez rien, vous ne faites rien, vous ne contrôlez rien. Il y a un produit que nous appelons le Prostajoy. Le Prostajoy vous permet de réduire la taille de la prostate, de maintenir la prostate dans sa cage, la cage que Dieu lui a délimitée là. Donc ça veut dire que ça contrôle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et il y a un autre produit que nous appelons Anti-DB. qui permet de comprendre tout ce qui est prostatite, tout ce qui est germe, tout ce qui est infection, notamment le germe de Escherichia coli qui quitte le rectum pour atteindre la prostate ou qui quitte la vessie pour atteindre la prostate. Vous prenez anti-DB, vous êtes protégé contre ce que nous appelons une prostatite. Et puis il y a d'autres produits qui sont là qui vous permettent d'éviter le cancer de la prostate. Voilà.
D'accord. Et au cours même d'ailleurs de la conférence, tout sera dit hein, sur ces produits et aussi tout ce qui constitue alors des risques de facteurs hein, pour la, les maladies alors de la prostate. Docteur, merci d'être passé dans cette émission. Si vous avez un contact hein, sur lequel on peut vous appeler ou se renseigner.
Tout à fait, tout à fait. La, notre réception est ouverte à tout moment, le 92 17 26 54.
92 17 26 54.
D'accord. Bon, si quelqu'un veut joindre un des médecins qui travaille là-bas, vous pouvez appeler 91 81 39 31. On rappelle encore?
Oui, 91 81 39 31.
Là, vous allez toucher un spécialiste de la prostate.
De la prostate. Oui. Docteur Hadi Kossi, merci d'être passé dans cette émission. Je ne sais pas si vous avez un petit temps, vous pouvez rester avec nous,
oui,
puisque peut-être déjà à partir de midi, nous allons donner la parole à nos
comme
auditeurs.
Comme vous m'avez accueilli.
Tout à fait.
Donc, je reste avec vous.
Vous êtes de la maison. Et comme vous êtes de la maison, vous pouvez y rester.
Merci, merci.
Merci beaucoup, docteur Hadi, d'être passé alors dans cette émission. Merci. Alors, chers confrères, c'est vrai que la maladie ou les maladies alors de la prostate tue, mais autre chose également qui tue, hein, c'est également les accidents lors de la route. Et c'est vrai que ce matin, il y a le journal Le Temps Nouveau qui est revenu sur le sujet. Et le journal Le Temps Nouveau, pardon, parle de la sécurité routière et il écrit « Sécurité routière, l'usage du téléphone au volant multiplie le risque d'accident ». Alors Germain, oui, on en parle toujours et on continue alors d'en parler, mais le phénomène continue par rapport à cette question de l'utilisation ou de l'usage alors du téléphone au volant.
Oui, aujourd'hui, le téléphone, c'est même au-delà du principal compagnon de l'homme. Hein, vous allez voir dans les familles, les couples ne discutent plus, hein, les enfants, tout ça, la télé même est en train d'être évincée, chacun et sur son téléphone, vous allez voir dans les grandes réunions, on ne voit pas des choses sérieuses, les gens sont sur leur téléphone. Et dans la circulation, il nous arrive même de voir des gens sur des motos en train de lire ou d'envoyer des messages.
Pas sur des motos.
Pas simplement de téléphoner, mais en train de lire. Il roule, hein, c'est pas qu'il est passager, il roule, mais il consulte un message. Il lit un message ou il regarde une vidéo. Et donc, c'est assez extraordinaire. Ça commence par être aussi grave que l'alcool. Et le téléphone, je ne sais pas, il a quelque chose aujourd'hui qu'il accroche. Il y a une sorte de dépendance. Les gens se sentent obligés d'être accrochés à leur téléphone, quelle que soit la situation. Et donc, vous verrez, pour les voitures, on n'en parle pas. Donc, les gens sont dans leur voiture. Parfois, quand ils conduisent mal et vous les dépassez, vous observez, vous vous rendez compte qu'ils sont au téléphone. Tranquillement, aujourd'hui, c'est pas qu'ils parlent, ils lisent les messages.
Des fois, il arrive même d'ailleurs quand les klaxonnent.
Alors que la circulation est déjà assez compliquée. Et quand on n'a pas toute son attention sur la route, ça devient très très compliqué. Donc aujourd'hui, en plus de l'alcool, en plus de la fatigue, des défaillances techniques, du non-respect du code et de certaines règles, le téléphone devient un perturbateur qui crée énormément d'accidents. Et la police essaie de faire ce qu'elle peut. Vous allez voir régulièrement des feux rouges ou la police a l'habitude d'arrêter des gens qui sont au téléphone. Avec les kits main libre aujourd'hui, ça passe un peu moins, mais on constate quand même que les usagers de la route ne sont plus concentrés sur leur dans leur véhicule, sur leur moto, sur le vélo, et donc ça contribue malheureusement à multiplier les accidents. Et donc vraiment, c'est notre confrère du temps Fabien, donc, de revenir sur cette actualité-là. Je crois que ça doit faire l'objet d'une vaste campagne.
Et Thierry, est-ce qu'aujourd'hui, oui, c'est un acte civique, est-ce qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre des dispositions pour sanctionner l'acte avant quand même qu'on ne l'arrête?
Oui, je crois que notre code de la route a prévu toutes ces dispositions. Maintenant, dans l'application de ces tests-là, il y a des difficultés qui sont rencontrées ici et là, parce que en plus des usagers de la route, même ceux qui sont positionnés dans la circulation pour la réglementer aussi utilisent leur portable. Donc, il faudrait accentuer la communication, la campagne autour de la question. Personnellement, j'ai failli laisser ma vie dans un tel comportement parce que, oui, il y a un monsieur, comme l'a si bien dit Germain, qui, sur sa moto, consultait un message. Et il a oublié qu'il était en pleine circulation.
Vous avez dit, suis sa moto, hein?
Oui, suis sa moto. C'est qu'à un moment donné, le monsieur, il s'est oublié qu'il est en pleine circulation. Et ça a failli nous coûter à nous autres la vie. Parce que le jour-là, j'étais à moto, j'étais sur un Z. Quand on l'a dépassé et que juste après, on clientait et on a bifurqué, le monsieur il ne s'est pas rendu compte. Lui, il continuait.
Il fonçait.
Et tenez-vous bien, c'est encore sur quelle route? C'est la route qui est passée derrière les clôtures de l'aéroport, la route qui passe devant le CTF.
Pour aller à Togo 2000.
Voilà. Donc, vous voyez, alors que cette route-là est par endroit serpenté, et donc, il fallait que, quand on est dans la circulation, qu'on soit présent d'esprit pour éviter les accidents. Donc, il faudrait, c'est vrai que de temps à autre, on mobilise la police pour des contrôles sur la route, mais au-delà de cette sortie de la police, il faut une véritable campagne de sensibilisation, parce que notre vie en dépend. Il faudrait que nous tous, nous puissions prendre conscience. Et vous constatez aussi dans la circulation, à des arrêts au feu rouge, les 60 secondes que nous passons pour l'arrêt en question, rapidement, on check nos portables, on envoie juste un audio ou bien un message ou bien on consulte rapidement son mail. C'est rentré dans nos habitudes. Donc, il faudrait qu'on puisse nous aider par la sensibilisation. D'accord. Pour qu'on puisse limiter l'usage du portable au volant ou au guidon.
D'accord.
Et en plus de cela, je voulais ajouter cet autre aspect de la chose, c'est concernant le port des casques. Je crois que le gouvernement a si bien fait de demander que ceux qui prennent les aides puissent aussi porter des casques.
C'est-à-dire les passagers.
Les passagers. Bon, sauf que les motos ne sont équipées que d'un seul casque. Alors que quand vous prenez la voiture, 5 places, si le véhicule est en bon état, les 5 sièges sont équipés de ceintures de sécurité. Alors, pourquoi ne pas demander aux concessionnaires, ces maisons-là qui vendent ces motos-là, de prendre des dispositions? Je ne demande pas qu'on puisse augmenter le prix d'achat des motos, hein, parce qu'il y a de ces concessionnaires-là qui exagèrent dans le prix des motos. On ne comprend plus rien.
Si tu le permets, s'il te plaît, nous allons observer un clin d'œil au niveau de la technique. On revient.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Thierry, vous
je vais terminer rapidement mon développement. C'est concernant ces maisons concessionnaires-là qui vendent les motos, qui exagèrent dans les prix, des motos qui vous payez peut-être en 2000, nous sommes en 2024, que vous avez payé en 2023. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000
qui s'ajoute au prix. Il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe. C'est vrai que ces messieurs, ils font du business, mais ils exagèrent. Et aucun ministère ou bien l'autorité ne contrôle rien. On se demande dans quel pays on est. Sincèrement, je crois qu'il faut regarder. Souvent, c'est Sanyaki et Raoujo qui font dans l'Excel des prix là. Mais les gens continuent. Oui,
là.
Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Oui.
Donc,
vous avez parlé des sociétés.
Et je parlais du problème de casque. Il faut, à partir de maintenant, obliger ou bien imposer à ces personnes-là qui vendent les motos, que les motos soient équipées de deux casques. Comme les motos, c'est deux places.
D'accord.
Il faudrait que les casques aussi puissent accompagner.
D'accord, merci. Oui, Gabin, c'est vrai que Thierry évoquait le fait que dans le code, le code de la sécurité, le code de la route, il y a justement des dispositions qui sont prises pour ces infractions. Si vous êtes au téléphone sur la route ou vous êtes au volant et que vous êtes au téléphone et que ça cause alors des accidents, c'est pénalisé. Mais ce qui est sûr, il semble qu'il y a des difficultés à appliquer, même d'ailleurs, que disposition. Et c'est quoi le souci?
Le souci est qu'à un moment donné, vous savez, par rapport à notre culture, il y a de l'indulgence de la part des policiers. Et il faut voyager pour savoir que les policiers togolais sont véritablement très indulgents, très compréhensifs envers les usagers de la route. Parce que, est-ce que vous savez que dans d'autres pays, il y a infraction même envers les piétons? Parce que moi, à Dakar, j'ai eu à traverser une voie, pas au niveau du passage pour piétons. Et bien, la police m'a appelé. Ils m'ont interpellé. Ils ont dit que, bon, monsieur, vous êtes en infraction. Je dis, ben, comment je suis en infraction? Je dis, ben, vous avez traversé, mais vous n'avez pas traversé au niveau du passage.
Ça a coûté.
Donc, on m'a verbalisé et tout. J'ai dû payer un petit 5 000 avant de partir. Donc, c'est au Togo, à chaque moment, chef fait quelque chose, ou bien si la police interpelle quelqu'un pour infraction commise, la personne se dit, bon, on est en train de... la police en fait de trop, ça aussi, on peut se comprendre et puis régler ça à l'amiable.
Mais oui, justement, est-ce que ce fait, c'est-à-dire cette indulgence dont vous parlez, est-ce que ça ne nous cause pas aussi de problèmes? C'est-à-dire, les accidents sont là aujourd'hui.
Malheureusement, c'est rentré dans les habitudes et c'est difficile de les endiguer. On parlait tout à l'heure de sensibilisation, mais je pense que on a tellement fait de sensibilisation sur la conduite à tenir sur nos routes. Même il y a eu des ONG qui mettent des gens au niveau des feux tricolores ou bien on met des pancartes devant, faites doucement, évitez le téléphone au volant et tout. Mais bizarrement, je ne sais pas si c'est une sorte de civilisation pour certaines personnes, parce que tu es en voiture, tu mets ton téléphone à l'oreille, tu communiques en cours de route, alors que là, tu ne mets pas seulement ta vie en danger, mais aussi celle des autres. Parce que la plupart du temps, ces mêmes personnes-là, quand tu les dépasses et que tu leur signes que bon, voilà, c'est pas bien de communiquer au volant, ces mêmes personnes-là peuvent t'insulter. Ou bien la personne peut se prévaloir d'une certaine position et voilà quoi. Moi, j'ai eu à vivre cette situation-là un certain nombre de fois. Et bizarrement, ce sont des personnes qui sont censées même aider la population à comprendre que c'est pas bien d'utiliser le téléphone volant qui font ça.
La personne doit être au-dessus de la loi.
Moi, c'est difficile de voir un taximan, par exemple, qui utilise son téléphone au volant. C'est très difficile de voir ça parce que lui, il est concentré sur son boulot. Il est en train de chercher des passagers. Mais vous voyez quelqu'un qui est très bien habillé, comme Thierry Afanouko ici, en costard et tout. Mais cette personne-là se permet de prendre le téléphone au volant. Mais imaginez que vous recevez une nouvelle choc au volant. Ce que ça peut causer comme dommage. Et vous voyez, la plupart du temps, la personne est devant toi. Tu veux le doubler, mais il est ici. Tu veux aller à droite, il est à gauche. Ainsi de suite. Mais à un moment, tu te poses la question, ça va bien. Que se passe-t-il? C'est vrai, on parle souvent des motos qui causent des accidents. Mais ce que font la plupart du temps les véhicules sur nos routes, c'est pas du tout fameux. Je pense qu'il va falloir agir avec une certaine rigueur au niveau des policiers. Il faut oublier un peu nos histoires de « non, on est tous des frères » et tout. À un moment donné, il faut être rigoureux par rapport à la répression des infractions que commettent ces genres de personnes-là pour préserver la vie des autres citoyens.
Et ne doit être au-dessus même de la loi. Ah, et quand vous parlez maintenant des personnes quand même qui sont là et qui normalement devaient être même d'ailleurs l'exemple, mais finalement, ce sont eux-mêmes d'ailleurs qui rentrent dans ces infractions. Et là, il n'y a personne quand même
téléphone pour leur dire cela, ça veut dire qu'il y a un souci. Alors, oui, mais Thierry, c'est vrai que c'est vrai que vous avez touché un point tout de suite par rapport même d'ailleurs à ces sociétés qui vendent alors des motos. Vous parlez même d'ailleurs de l'augmentation des prix et on n'arrive même pas aussi à maîtriser même d'ailleurs cette augmentation. Et il y a le journal Le Temps Nouveau qui est revenu également sur la vie chère, parce qu'il n'y a pas que des motos, il y a aussi des produits de première nécessité aujourd'hui. Hein. Et il y a le journal Le Temps Nouveau qui est revenu sur cela. Il dit, le journal écrit « Vie chère, mesure contre l'inflation, la population trépigne d'impatience ». On se souvient, tout entre-temps, qu'il y avait même d'ailleurs au CPC une rencontre qui a planché même sur cette question de vie chère, où la ministre du Commerce a été invitée à la table alors de discussion. Mais finalement, on n'écoute plus rien là.
Oui, vous savez, ces mesures-là, pour soulager les populations, le gouvernement les initie de temps à autre. Mais c'est leur efficacité ou leur impact qui pose un véritable problème. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre les mesures, mais il faut veiller à ce que ces mesures-là soient réelles sur le terrain. Qu'est-ce que je veux dire? Nous manquons de... Je ne sais pas s'il faut renforcer le personnel du ministère du commerce, surtout ces directions du commerce intérieur et du commerce, du commerce intérieur, pour le contrôle sur le terrain. Aujourd'hui même, en plus de cette situation, il y a des produits avariés qui sont encore sur le marché. Moi, j'en ai. Nous préparons à publier un article là-dessus. Vous prenez dans des produits sur des étalages, dans des supermarchés ou encore dans des restaurants. Si vous vous amusez un peu à regarder les dates de péremption de ces produits-là, vous vous rendez compte que ces produits-là ne devaient plus figurer dans les rayons de ces supermarchés-là. Mais malheureusement, c'est courant au Togo. Donc, il faudrait que quand le gouvernement, entre-temps, on a détassé, c'est ça, je crois, des produits de première nécessité, mais ça ne change pas. Je crois que cette semaine, il y a des gens, je lisais ça sur les réseaux sociaux, qui se plaignaient du fait que le bidon de 25 litres de l'huile, le prix, c'est comme si on parle de 29 000 ou 30 000 pratiquement.
Oui, justement, hier on en parlait, 28 000 plutôt.
Voilà, donc on ne comprend plus rien. Alors que nous avons des usines qui produisent de l'huile, ces huiles-là végétales chez nous, je ne sais pas si on ne comprend rien. Il faudrait qu'à un moment donné, depuis que cette réunion au niveau du CPC s'est tenue et que le gouvernement a promis faire quelque chose, depuis là rien n'est fait. Il y a des semaines et des mois qui sont passés, mais rien n'est fait. Donc on veut comprendre pourquoi il y a cette spéculation là, pourquoi il y a cette inflation là. Je sais que l'inflation en question n'est pas propre au Togo, mais s'il y a véritablement contrôle, on peut alléger les choses. Quand nous prenons même par exemple le coût du carburant, dans d'autres pays, le prix du carburant, notamment l'essence, n'est plus à 700 francs. Mais depuis des années...
C'est qu'on annonce même la baisse du baril.
Voilà, mais chez nous, c'est toujours maintenu. Donc, on ne comprend pas. On se demande, est-ce que les autorités sont véritablement là pour nous, les populations? Est-ce qu'on écoute nos cris de détresse, nos cris d'alarme et tout ça là? Il faudrait qu'on puisse nous aider à vivre un peu bien avant que le Seigneur ne nous rappelle un jour.
D'accord. Et je pense qu'on a encore beaucoup de temps devant nous, beaucoup d'années devant nous avant que le Seigneur nous appelle. Et jamais, c'est vrai que quand on veut faire un développement à visage humain, il faut miser beaucoup plus alors sur des questions de première nécessité, le panier de la ménagère, comme nous avons l'habitude de le dire. Mais est-ce que vous avez l'impression quand même que on mise vraiment là-dessus?
Moi, je crois qu'il y a plusieurs programmes du gouvernement, un programme lié à des...
Ça fait 15 000 par trimestre. On leur fait le versement par trimestre.
Et après, il y a un aspect qui est assez important, c'est la santé. C'est le coût de la santé. Ça pèse énormément sur le ménage.
et avec l'assurance maladie qui est en train d'être déployée. Si le gouvernement arrive à mettre suffisamment de moyens pour prendre en charge, ils sont venus pour tenter de c'est un peu souvent sur les autres prix, hein, sur le marché. Mais comme je le disais, il faut toucher à tous les leviers, même si ce n'est pas de l'argent frais qu'on envoie aux gens, aux couches les plus défavorisées. C'est de créer vraiment des situations globales pour que la lutte contre la vie chère soit effective. L'État a essayé. Par moment, il y a quelques années, on parlait des ordinateurs, des téléphones, il faut baisser des taxes. L'État a baissé les taxes, mais les commerçants n'ont pas baissé le prix, par exemple. Donc, il y a un sérieux problème de contrôle aussi des prix sur le marché. C'est le rôle de l'État, c'est vrai, mais c'est en même temps le rôle des citoyens. Il faut que les citoyens aident l'État pour dire, mais ça, l'État dit ceci, vous devez le faire comme ça et ça.
Mais est-ce qu'il ne faut pas être rigoureux là-dessus? C'est-à-dire, pour ce contrôle en question, il faudrait quand même qu'à un moment donné, on arrive à dire, mais écoutez, le prix c'est tel, et donc il faudrait que tout le monde respecte cela.
Oui, c'est vrai qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal où on a tenté de baisser certains prix, la disposition a été prise, mais les commerçants ont toujours des moyens de contourner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas l'État qui a fourni un stock, ils peuvent se dire, mais ils ont pris, c'est le fournisseur, voilà, le prix, ça. Donc, ça reste difficile. Même le loyer qui a été réduit au Sénégal, dans les faits, ça n'a pas abouti. Parce que les gens ont tout simplement délogé les locataires, ils ont donné un coup de peinture et ils ont augmenté exactement ce qu'on avait réduit. Donc, les commerçants ont toujours une solution. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers la production locale? On parle d'industrialisation aujourd'hui. On a déjà un Made in Togo qui se bat, qui transpire, mais on ne voit pas beaucoup les Togolais consommer tous ces produits là fabriqués ici. Douteuses dont on ne connaît pas la qualité, qui sont très moins chères, et puis après aussi ce sont des maladies, donc quand on s'achète moins cher comme ça au marché, il faut dépenser maintenant beaucoup plus cher pour se soigner. Et je crois qu'il faut revenir au cadre de concertation, où on était heureux de voir que c'est l'opposition aussi qui avait soulevé cet aspect-là. Pendant que tout le monde parle de la 5e République, donc il y a des opposants qui se sont dit, mais ce qui intéresse les Togolais, ce n'est pas la 5e République, c'est la vie chère, un peu comme dans tous les pays. Maintenant, l'annonce a été faite, mais depuis, est-ce que ces acteurs se sont réunis une autre fois?
Mais généralement, je me demande, est-ce qu'on a besoin vraiment de réunion pour ça?
Oui, mais non, on en a besoin, parce que c'est un cadre créé pour ça. Où il faut aller même au-delà des questions politiques.
Oui,
même,
mais je pose la question.
Nous, on aurait même souhaité, même qu'on ouvre ce cadre-là, à la société civile.
Oui, je pose la question parce que tout récemment au Niger et même au Sénégal, on n'a pas eu quand même à faire de réunions avant de diminuer les prix des premières nécessités.
Oui, on n'a pas eu à faire des réunions avant de diminuer les prix de première nécessité. Bon, mais c'est pas mal aussi de le faire parfois. Bon, les opposants ne sont pas au pouvoir, donc ils ont besoin de comprendre un certain nombre de choses. Sauf que ça a été juste une visite de courtoisie. On n'a pas eu réellement d'informations par rapport à ce qui motive le maintien, par exemple, du prix des produits pétroliers. Entre-temps, on nous avait parlé de vérité des prix à l'époque de M. Gozan, mais depuis lors, on n'a plus rien eu. On maintient le prix des produits pétroliers, même si le baril baisse à l'étranger. Et vous allez voir qu'après, si le baril augmente, on va encore ajouter aux 700 francs qu'on est en train de payer maintenant.
Le litre.
Ça s'est toujours passé comme ça au Togo, et moi, c'est un peu frustrant pour la population. Même ce qu'on achetait avant à bas prix, ce qu'on considère comme nourriture des pauvres, aujourd'hui, c'est nourriture des riches.
Non,
aujourd'hui,
il faut donner les noms.
Quand tu vas au marché aujourd'hui, haricots, c'est 2 800, 3 000 francs.
Non, c'est à 4 000 francs. Attention, c'est à 4 000 francs.
Non, c'est pas échelonnement. Ce dont je parle de 2 800, là, c'est rempli de popovi. C'est rempli de
tout le monde ne peut plus manger.
L'haricot qui est un peu comestible, c'est à 4 000 francs le prix. Vous imaginez un peu le bol, hein? Et le maïs aujourd'hui, c'est à 850, 800 francs. Donc, c'est tellement compliqué aujourd'hui pour la population lambda d'arriver à survivre. Même pour manger, c'est compliqué. C'est qu'en 2500 francs, je ne suis pas sûr que c'est suffisant pour un ménage hein, d'un homme et d'une femme et d'un enfant aujourd'hui. Parce que déjà, il y a certaines choses qui ne sont pas respectées par rapport au loyer. Et c'est ce qui fait mal un peu. Parce qu'un gouvernement ne peut pas mettre sur place avec l'Assemblée une loi et puis la population se permet de ne pas respecter. Il n'y a pas répression derrière. Ça pose problème. On a mis les prix des loyers ici. Le gouvernement a fait un projet de loi, l'Assemblée nationale a adopté et tout, et il y a une loi organique tout autour, mais vous allez voir que les gens maintiennent toujours le prix des loyers et même augmentent toujours. Donc ça pose un certain nombre de problèmes de veille citoyenne et aussi de veille de la part de l'État. L'État ne veille pas ce que les mesures qu'il a prises pour permettre à la population de bien vivre soit respectée par ceux-là qui détiennent quand même un levier un peu plus important de la vie de l'État. Donc moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. C'est au gouvernement de réfléchir à comment faire pour pouvoir faire en sorte que la population arrive à bien vivre. On ne peut pas être dans un pays côtier. On a le port ici. Les produits viennent directement chez nous. Et le Niger qui est obligé de prendre ses produits par notre port diminue ses prix alors que nous on est toujours dans le maintien de ces prix là. Le gouvernement ne communique pas non plus autour de cette affaire. Il va falloir communiquer pour qu'on sache réellement que bon, voilà les raisons qui sous-tendent le maintien de ces prix ou bien l'augmentation des prix de première nécessité. Parce que on parle de santé, mais on doit aussi manger, être en bonne santé et travailler pour construire notre pays.
Oui, je voulais placer un mot. Aujourd'hui, il y a un réel problème. Il faudrait, je crois, le chef de l'État, Faurisson Nyansingbé, au congrès du parti Unir, il demandait à ses collaborateurs, ou du moins aux militants et sympathisants du parti, qui ont des postes de responsabilité dans ce pays, d'être à l'écoute de la population. Malheureusement, on a l'impression que ces lieutenants, ces collaborateurs ne sont pas à l'écoute de la population. Hier encore, quand vous mangez du devis, on peut vous traiter de pauvre. Mais aujourd'hui, un pauvre ne peut pas s'offrir le devis.
Le bol, c'est 7000 francs.
Mais au Magbaté, Yoré Pascal, tu ne peux pas. C'est réservé aux riches. Le Djemekpe, vous ne pouvez plus l'acheter si vous n'avez pas l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la réalité dans notre pays. Les choses que vous mangez avant. Et on vous dit que vous êtes des pauvres, vous êtes quoi. Mais aujourd'hui, ces choses-là ne sont servies que sur les tables des riches. Donc, il faut un réel et diagnostic, il faut un réel travail pour que la vie chère, la flambée, l'inflation dont on parle, le gouvernement puisse arriver à juguler les choses. Il faut nous écouter et travailler en conséquence. C'est très important.
D'accord. Alors, je ne sais pas si vraiment il faut un diagnostic, puisque le problème est déjà là. Il suffit simplement de prendre des décisions et d'avoir une volonté politique.
Bon, peut-être qu'il ne le voit pas.
D'accord. Oui, jamais. Je vous ai vu quand il parlait, vous souriez.
Moi, je souriais parce que nous croyons que manger du gari, c'est pour les pauvres.
Mais aujourd'hui, tout le monde ne peut plus.
En fait, c'est nous-mêmes qui nous trompions depuis le début. Mais quand vous allez en Côte d'Ivoire, le premier plat qu'on te propose, c'est à Tchèque, c'est le tournoi du gari. Hein. Pour nous, on appelle ça gari en banalise.
Gari mouillé.
Mais là-bas, ils te disent, si tu n'as pas mangé ça, tu n'es pas venu à Abidjan. Ça veut dire que nous ne savons pas valoriser nos choses. Nous pensons que manger gari, c'est pas bon. Manger les petits poissons dont Thierry parle, mais tous les médecins...
Mais parce que c'était moins cher.
C'était moins cher.
À l'époque.
Mais on croyait que c'était mal mangé. Mais aujourd'hui, les médecins te conseillent plutôt ces petits poissons qui sont plus riches. Et donc, moi, je suis heureux, c'est vrai que ça va choquer un peu, je suis heureux quand les produits togolais, parfois, sont un peu chers. Aujourd'hui, on dit le maïs, c'est cher. Mais personne ne dit que le riz est cher. Quand on augmente le prix du riz qui vient de l'extérieur, les gens achètent facilement. Mais le maïs, il trouve que comme ça vient du champ du Togolais, il faut baisser le prix pour que l'agriculteur lui perde de l'argent. Mais si vous êtes capable d'acheter du riz, du macaroni, tout ce qui vient de l'huile chère, vous achetez parce que ça vient de l'étranger, mais achetez pour que l'agriculteur togolais aussi gagne. Donc quand les produits togolais sont chers et sont de bonne qualité, moi, je ne trouve pas qu'il faut se plaindre. Je pense que
Que les produits togolais sont chers, mais ça ne produit, ça ne profite pas aux paysans, hein, aux cultivateurs. Oui, parce que c'est des gens qui vont payer, ils investissent, ils paient le champ. Oui. Quand les cultivateurs ou les agriculteurs font la récolte, ils viennent ramasser.
Je t'ai bien écouté. Si on accepte de payer le juste prix, parce que même. Tout le monde a tendance à dire de baisser le prix du maïs. Mais l'agriculteur, il va vivre de quoi? Et pendant ce temps, quel que soit le prix qu'on fait sur les autres produits importés, on est prêt à acheter. Parce qu'on nous dit que ça vient d'ailleurs, donc bon, ça s'impose à nous. Mais ici, on dit non, qu'il baisse. Mais quand on vous explique, c'est vrai, le paysan ne gagne même pas assez quand on fixe ce prix-là. Maintenant, quand on leur dit de baisser, c'est pour ça que certains,
c'est pas le
pouvoir d'achat. Je me dis tout à l'heure, nous sommes prêts à acheter les autres produits importés chers, sans se plaindre. Personne ne te parle d'augmentation de prix de.
Mais il faut aller voir aussi cette couche
oui,
que l'achète.
C'est aussi une question de couche. Va le soir dans le bar.
Le maïs, c'est notre aliment de base. Hein.
Les gars qui disent qu'ils ne peuvent pas manger deux fois par jour.
Le maïs que le riz.
Ils te tapent deux bières le soir avant de rentrer.
C'est pour se faire plaisir.
C'est juste alors pour se faire plaisir. Thierry, vous savez, la population, on est élu, des dirigeants pour pouvoir. Nous permettre de bien vivre, d'avoir quand même les besoins les plus usuels à notre portée, et que si ça aussi devient compliqué, alors là ça pose problème. Et si il sera bien moins cher et que quelqu'un a de l'argent pour aller payer de la champagne, bon, alors là c'est son affaire. Mais si même pour payer ce rabis, c'est la croix et la bannière, alors je pense que le gouvernement doit véritablement réfléchir. Ça fait moi déjà plusieurs années que je ne consomme plus du riz importé, parce que je ne connais même pas la fiabilité de ce riz-là. Donc moi, je préfère du riz de Corvier, sauf que c'est cher. C'est tellement cher que les gens n'ont pas n'ont pas le choix que d'aller acheter du riz importé qui coûte 4 500 au lieu d'acheter du riz de Corvier qui coûte 3 fois beaucoup plus cher. Vous voyez un peu, aujourd'hui, quand on parle du prix de maïs, c'est aberrant que les Togolais achètent le maïs beaucoup plus cher que d'autres pays, les pays de l'Interland et tout. Parce que nous, on produit du maïs. Et ça pose la question de la production, du taux de production. On ne produit pas assez. Et c'est la faute à qui? Entre-temps, le chef de l'État lui a fait le faux pas. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Quels sont les résultats sur le terrain? Est-ce qu'on en profite réellement? Parce qu'à chaque moment, je pense qu'on nous parle de... comment on appelle ça?
Quoi, les agropoles?
Non, pas du tout. Quand on finit les récoltes, là... qui a de l'excédent, de l'excédent céréalier, mais sur le marché, c'est tellement compliqué d'arriver à trouver du maïs et d'en acheter à bas prix. Les gens préfèrent exporter ça. Il y a eu même des arrestations de camions au niveau des frontières, des saisies et tout ça. Donc, à un moment donné, je pense que le gouvernement doit véritablement réfléchir à faire baisser les prix des produits de première nécessité, parce que c'est tellement important. Les choses qu'on achetait à 350, 250 francs, aujourd'hui on se retrouve à les acheter à 800 et autres. D'accord. C'est tellement compliqué pour la population.
Ok, on va quitter le sujet.
Allez dans les maisons aujourd'hui.
La vie chère, c'est dans tous les pays, en fait. Comprenez. On parlait des États-Unis tout à l'heure, c'est ça qui a chassé la
démocratie. Mais l'événement prend. Mais
eux, ils ont les moyens d'en acheter.
Le gouvernement a réussi déjà. Il n'y en a pas. Même quand vous parlez du Niger, c'est de la poudre aux yeux. Hein.
Comment? Il y a cette baisse.
Mais il y a un effort qui a été fait sur le ciment, sur un certain nombre de choses. Ouais. Parce qu'il y a l'argent du pétrole qui est arrivé. Les gens sont arrivés par un coup d'État. Il faut montrer qu'ils sont capables de faire certaines choses. Jusque-là, ça fait quelques semaines. Mais après, il s'agit de décisions beaucoup plus importantes à prendre. Maintenant, quand on prend l'agriculture au Togo, nous sommes pour le maïs, si on arrive à produire énormément, on peut baisser le prix. Mais pourquoi on ne produit pas énormément alors que le gouvernement met des moyens? Mais les gens n'aiment pas le travail de la terre. Quand vous allez dans nos villages, souvent, ce sont les femmes qui cultivent. Tous les jeunes sont en ville pour faire la sécurité, pour faire le
Oui, c'est parce qu'il faut, faut passer à la mécanisation de notre agriculture. En Ghana, ici,
est-ce que les femmes font la mécanisation
que les gens ont, ils ne labourent plus avec les
hommes.
Les femmes sont plus solides que les hommes. Les hommes attendent la mécanisation.
On va revenir sur le sujet. D'accord, merci. On va revenir sur le sujet, mais je reste avec toi. On va parler de cette politique extérieure, hein, bien sûr, et surtout des États-Unis. Vous en avez parlé à la une alors de votre journal. Et ce matin, vous écrivez Donald Trump, coriace et président. Et également, vous écrivez que le président Faure Gnassingbé adresse ses vives félicitations au nouveau président élu des USA. Vous voulez bien sûr parler alors de cette réélection de Donald Trump. Alors, est-ce que vous avez été surpris de voir Donald Trump revenir à la Maison-Blanche?
Non, moi, j'en ai été surpris, tout simplement parce que c'est un candidat que j'ai suivi depuis 2016 de façon fortuite. Je me suis rendu compte qu'il avait le courage de ses idées, mais il y avait une sorte d'acharnement médiatique sur lui qui transformait tous ses propos, qui ne reflétait pas vraiment la réalité de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, Donald Trump s'amuse à dire qu'il a remporté 3 élections présidentielles aux États-Unis. Même s'il n'a pas pu gouverner en 2020, il sait qu'il a remporté, c'est la 3e. Et quand on voit son parcours avec toutes ces affaires judiciaires qu'on lui a collées, avec des attentats et tout ça, et ce gars s'en sort, c'est pour ça que nous avons estimé qu'il est coriace et président. C'est un exemple là. Qu'il faut forcément suivre. C'est un homme qui a eu le courage de ses idées et qui les a imposées pendant que Kamala Harris vendait le droit à l'avortement. Mais lui, il disait, les Américains ont faim, il faut leur trouver du boulot, il faut trouver des solutions, c'est pas de l'avortement que les Américains ont besoin, mais ils ont besoin de manger, de faire un certain nombre de choses. Mais ça, les médias ne nous ont pas dit ça. Et quand vous voyez ce score aussi large, avec le vote populaire qui a été remporté, tout cela, donc nous sommes un peu revenus sur cette élection-là. C'est vrai que nous ne sommes pas américains, mais vous savez comment ce scrutin a accroché le monde entier, avec l'influence qu'on connaît de l'Amérique, des États-Unis, donc sur le monde. Et nous lui avons réservé pour la première fois une
sur notre
journal. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur parce que ça devrait servir d'exemple. Vous avez, lui-même le disait, personne n'a cru qu'il allait passer. Mais il a convaincu les gens, il s'est allié, il est allé, il s'est battu, même avec son âge, 78 ans, il était tout le temps sur le terrain, depuis longtemps. Il a partagé ses idées, il a convaincu une majorité des Américains. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va vous dire que ceux qui ont voté pour Trump, c'est les pauvres, c'est les Américains des villages, des zones rurales et tout ça, mais c'est faux.
D'accord.
C'est pas tout à fait ça.
Okay.
Mais c'est qu'il y a eu une crise économique, il y a une pauvreté ambiante. Les Américains joignent difficilement les deux bouts comme nous ici. Parfois, on a l'impression qu'ils vivent mieux que nous, mais c'est faux. Et donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui apporte des solutions.
Ok, merci beaucoup, Germain. Thierry, c'est vrai, on a vu la campagne électorale avec ces tentatives même d'ailleurs d'assassinat et même aussi ces procès contre Donald Trump. Mais finalement, c'est lui qui a remporté. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que vous êtes arrivé quand même à comprendre la société américaine?
Oui, parce que tout simplement, Trump a réussi, Trump a réussi à transformer tous les problèmes qu'il avait devant lui en victoire. Donc, c'est cette capacité-là qui lui a permis de remporter une fois encore cette élection. Et puis, l'inconstance de Kamala Harris tout au long de la campagne a joué en sa défaveur, parce que sur des sujets bien précis, elle dit une chose le matin dans un état, le soir elle dit autre chose dans un autre, en fonction du public qu'elle a en face d'elle. Donc tout ça là a déjoué à jouer contre elle. Et surtout, il faut dire que Trump était en avance sur elle parce que elle n'est pas vite rentrée en campagne. Trump, depuis sa défaite, occupait le terrain, soit par ses procès, ou encore lui-même, il invente ou il se prononce, c'est qu'il était toujours présent dans la tête des Américains. Donc, tout cela lui a facilité, balayé la route.
D'accord. Gabin, c'est vrai qu'il va prendre le pouvoir déjà à partir de janvier prochain. Oui, justement. Alors, finalement, qu'est-ce qui sera et comment sera le monde déjà quand, pour ce deuxième mandat de Trump?
Oui, le monde sera mieux par rapport avec l'arrivée de Donald Trump. Avec, vous savez, le wokisme et tout ce système, la mise en place par les démocrates. Moi, je l'ai toujours dit, les démocrates, ce sont les plus grands hypocrites au monde. Ce sont les gens qui créent beaucoup plus de guerres hein, dans ce monde-là. Vous aurez pu constater que sous la présidence de Donald Trump, de 2016 à 2020, il n'y a pas eu de guerre. Même le débarquement des Américains de l'Afghanistan et autres, là, c'est lui qui a eu à organiser ça avant que...
Trump dit même d'ailleurs qu'en 24 heures, il va arrêter la guerre en Ukraine.
Oui, bon, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Ben, vous savez, c'est là aussi son pragmatisme. Trump, c'est le pragmatisme politique. C'est un homme qui dit les choses tout droit, qui ne passe pas par quatre chemins. On connaît sa position par rapport à la guerre en Ukraine, entre la guerre russo-ukrainienne. On sait comment les Américains vivent cette situation-là. Ils ne veulent plus mettre un seul franc dans cette guerre-là, alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de subir des inflations à l'intérieur. Donc, Donald Trump, lui, il ne veut plus mettre un front sur l'Ukraine. Il veut juste arrêter cette guerre-là. Et on connaît sa position aussi vis-à-vis de la guerre entre l'Israël et le Liban et l'Iran. Lui, il est venu, c'est comme un homme d'affaires qui, comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit. Il ne va pas rester là, faire des affaires avec Israël et dans une période de guerre. Donc, on connaît aussi sa relation intime et amicale avec Benjamin Netanyahou. Donc, il va tout faire pour pouvoir arrêter cette guerre-là. Maintenant, quand les gens parlent souvent du fait que, bon, c'est parce que Kamala Harris, c'est une femme, raison pour laquelle on ne l'a pas votée, ben, il y a plus de femmes qui ont voté que d'hommes. Mais Donald Trump a dépassé Kamala Harris de plus de ses 5 millions d'électeurs d'après les votes populaires. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont voté, qui ont confiance en Donald Trump qu'en Kamala Harris. Kamala Harris, c'est pas de la misogynie, mais il va falloir qu'à un moment donné les enchasses que Donald Trump a fait beaucoup plus une campagne pragmatique. Okay. Au moment où Donald Trump proposait Elon Musk le plus riche au monde, ben Kamala Harris a amené les Beyoncé et autres là dans cette campagne. Donald Trump fait 2 heures de discours, Kamala Harris fait 18 minutes. Donc,
D'accord, merci beaucoup. Notre train est déjà avancé. Je sais que nos auditeurs s'impatientent à rentrer aussi en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous allons leur donner la parole maintenant, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5.
Canal FM. Canal FM.
De retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous sommes toujours avec Dr Aradi Kossi et aussi nos confrères. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, allô, Canal FM.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, ça va.
Votre nom c'est?
C'est Wiyao depuis.
Ah, monsieur Wiyao, allez-y.
Ah, j'aimerais dire à monsieur, il y a un journaliste là, je ne sais pas si c'est Germain ou bien, je ne sais pas, il est là-bas. Et quand il parle, moi je n'arrive pas à le comprendre, hein. C'est-à-dire je veux qu'il parle plus haut. Parce que quand il y a un journaliste qu'on appelle, quand il parle, tous on l'écoute. Jérôme. Quand il parle, tous on l'écoute. Mais Germain, quand il parle, c'est comme c'est un français, bon, je n'arrive pas à le comprendre. Donc, je voudrais que prochainement, là, quand il vient au studio, il n'a pas bien parlé. Même vous, le journaliste qui est là-bas, là, quand vous parlez, moi, je vous comprends très bien, je vous écoute très bien. Mais l'autre, là, Germain, là, mais rien. C'est comme
c'est ma batterie qui est faible. Non, monsieur Yao, entre-temps, il y avait un problème du micro. Il y avait, il y avait eu un problème du micro au niveau lors de Germain, mais ça a été réglé.
Pour la vie chère maintenant. Donc, pour le carburant, je suis sûr que c'est quand on paye les fonctionnaires qui sont en fonction actuellement, quand on les paye 10 000, c'est ça qui fait que le camion ne chute pas. Donc, ça doit être là-bas. C'est ça, là. C'est ça que nous allons payer jusqu'à le jour qu'on va enlever les 10 000 francs sur leur salaire-là. Que ça va diminuer. Sinon, à l'heure actuelle, là, que je vous dis, c'est que je vole pour vous dire que les 700, là, on va toujours payer ça jusqu'à les 10 000 francs qu'on va faire quitter sur leur salaire. Ça va diminuer.
Mais monsieur Yao, c'est quoi le rapport?
Pardon?
Oui, c'est quoi le rapport entre les 10 000 en question et aussi le...
Ah ouais, c'est le déplacement. C'est le déplacement pour les fonctionnaires. C'est un déplacement qu'on a fait pour les fonctionnaires. Donc, ils connaissent ça. Quand je parle, tout le monde connaît ça. Merci. Bonne émission.
Merci beaucoup, M. Yao, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
Oui, Nyamavo, cher.
Allez-y.
Excusez-moi. Moi, j'étais à Sotobois une fois, j'ai posé avec les paysans. Là-bas, même, c'est encore la misère et l'ambiance. Donc, je l'ai fait savoir quand l'État ne connaissait pas le secteur de Naracadium, là. Il vendait ça, le kilo à combien? Il disait, mais à 1200. Maintenant, c'est à combien? C'est à 300. Vous voyez, il a divisé en quatre parties. Il vous paye une partie. Et vous faites de faire des regroupements, il va vous aider. C'est vous qui l'aidez, mais c'est l'État qui vous aide. Si le paysan travaille bien, il n'a pas besoin d'aide de l'État. Si le pays marche bien, le paysan ne va pas souffrir. Mais aujourd'hui, peut-être que celui qui achetait ça à 1200, il le revend ça à 1500. Ça veut dire que l'État, s'il le revend ça à 1500, il a divisé en 5 parties. Ils ont compris. Hein. Il y avait un cousin là-bas qui avait fait des champs d'igname. Il a dû faire des prises de main sur le préfet, le chef canton, avant de prendre sa tête d'igname. Tout simplement, une autorité s'est accaparée. Oui, voilà le terme. Des hectares. Il allait voir le propriétaire, mais j'ai pris ce terrain en bail, mais je ne veux pas prendre mes têtes d'ignore. Il dit lui-même, ces femmes n'arrivent même pas à mettre pied pour prendre encore les bois, mon dommage. Et vous allez dire que les Togolais ne veulent pas travailler. La minorité s'est accaparée de tout, même les terrains. Ce qui fait que les jeunes, n'ayant pas de terrain cultivable, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Le vol, le sémillant, tout ça là. C'est ce qui signifie la vie chère, c'est tout, quoi. Nous, on n'est pas l'information. Nous sommes des paysans, fils des paysans. On sait ce qu'on dit. On ne mâche pas les mots. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est les Togolais qui sont paresseux. Pardon. D'accord. Est-ce qu'ils sont paresseux avec le prix du gaz à 5 000 au Togo contre 2 000 au Burkina Faso, un pays qui n'est pas à côté? Hein? Donc, la vie chère, comme que quelqu'un l'a dit, on n'a pas besoin d'une réunion. C'est frappant. Ceux qui disent réunion là, c'est comme si ceux qui sont au sommet ne savent pas qu'il y a la vie chère. Donc il faut se réunir, prendre une décision, aller prendre une note, aller voir le chef en bas ici, les gens souffrent. Ça veut dire que, comme le Donald Trump le prône, ce n'est pas comme ça au Togo. On n'a pas besoin de regarder ce que vivent les Togolais. D'accord. Donald Trump a su ça, c'est pourquoi il a demandé de revenir.
Merci. Okay, merci beaucoup, monsieur Nyamavo, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô.
Bonjour, madame Essi.
Bonjour. Ça fait un moment.
Ça fait un moment.
Voilà. Bonjour à David Nyamavo, Saf, Nodes et tout le monde là-bas. Voilà, moi, je ne suis plus beaucoup, mais j'attends que les gens en ligne aient compris qu'on a fait les Togolais de paresseux. Moi, je propose que les gouvernants de 51 ans, là, ils n'ont qu'ils cumulent tous des postes 3-4, hein, et qu'ils se sucrent pour rien, pour aucun rendement. Ils n'ont qu'à passer la main demain, ou la semaine prochaine du moins, pour voir comment ce Togo va évoluer, va se développer en quelques mois. Ils n'ont qu'à partir là. Et nous là, on va prendre. Même vous là-bas, là. Vous pouvez mieux gouverner que, travailler que.
D'accord. Merci.
Donc, c'est ça. Moi, je suis une trompiste depuis longtemps. Parce que c'est un blanc, c'est un raciste, c'est un multimilliardaire, il ne respecte rien. c'est un racisme comme les Africains envers les Blancs. Et puis, il va nous coller la paix. C'est pas les Républicains qui nous font mal depuis 63. C'est les démocrates qui nous font mal, qui nous...
D'accord. Merci beaucoup, madame. Et si nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô? Allô? 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, vous?
Ça va, c'est Patrick?
Oui, c'est Patrick.
Oui, Patrick. Allez-y.
Je salue tout le monde là-bas.
Oui.
Bon. Pascal,
oui,
le phénomène là, moi-même, je ne comprends pas. Hein. Affaire du téléphone au volant, ou bien sur les motos là.
Patrick?
Oui, allô?
Oui, je vais vous prier alors de diminuer un peu le volume de votre radio à côté de vous.
D'accord. Oui, je disais, le phénomène là, ça prend de l'ampleur, vraiment quoi. Le téléphone au volant là, en conduisant. Mais ce qui est un peu aussi marrant, c'est des gens, excusez-moi, mais des gens très très responsables même le font. C'est ça, c'est tout qui me fait chose quoi. C'est plutôt eux qui abondent quoi. Vous les voyez dans des véhicules de dernière classe, déclinés, mais le gars, il a son téléphone collé à l'oreille. Et le comble aussi, je vois des immatriculations étrangères qui font ce genre de trucs. Surtout, je n'ai rien contre mes frères béninois. Les plaques béninoises qui circulent à Lomé, là. La plupart, vous les voyez aussi au téléphone. Et quand vous essayez, comme la CIVG des journalistes là-bas, de les recadrer tout petit peu, ils s'en fichent pas mal de toi, quoi. C'est comme si toi, tu n'es rien devant eux, quoi. Si tu as un moto, tu vois ce genre de trucs. Tu fais la même, c'est pas bon ce que tu fais. Ils te regardent même pas. Parfois même, ils font un geste dans le véhicule pour te nuire. Moi, ce que je peux dire à l'État là, ou bien au ministre en charge des transports là, mais pourquoi ne pas former des gens spécialement pour ça, pas forcément les forces de l'ordre, pas forcément la SR, mais des individus attestés, c'est-à-dire embigarés, qui peuvent quand même prendre des immatriculations là et verbaliser ces genre de personnes. Parce que la plupart des accidents aussi passent par là. Je suis désolé. Moi, qui vous parle, parfois il m'arrive de le faire. Mais si je tombe dans là, pourquoi pas? Je sais que c'est pas bien. Mais tout le monde le fait. Nous ne voyons pas la face. Tout le monde le fait. C'est pas bien.
D'accord.
Bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick. Patrick, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce vendredi. Germain, 30 secondes pour votre réaction.
Non, je voudrais juste saluer l'initiative prise par le docteur Cialignano, donc dans les hôpitaux. Ça fait des années qu'il avait annoncé cette campagne-là. Elle est finalement effective et ça fait plaisir de voir que les responsables des syndicats de praticiens hospitaliers, donc par-dessus eux, donc, de rappeler à leurs membres l'importance de l'accueil des malades, parce que c'est une vraie nécessité aujourd'hui. Avec l'avènement de l'assurance maladie universelle, ça devient une grande nécessité. Je pense qu'il en a profité aussi pour évoquer des cas de corruption aussi dans les centres hospitaliers. C'est bien que la sensibilisation se fasse par les intéressés eux-mêmes. Vivement donc qu'ils poursuivent ce travail-là et que l'impact soit remarquable dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les centres d'hôpital.
D'accord. Thierry?
Oui, je veux revenir sur la nomination du nouveau directeur général de la police nationale. Je crois qu'il y a un commissaire divisionnaire qui est en la personne de Akatao Babarim, qui est nommé DG de la police nationale, et ça réjouit beaucoup les policiers parce que ils se disent que ils sont finalement des étrangers dans leur propre maison, parce que celui qui a été remplacé est un gendarme, et voilà, on a nommé un des leurs, ce que les policiers ont toujours souhaité. Et au même moment, on a nommé un secrétaire général au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est aussi un commissaire. Donc, les policiers se félicitent de cela parce qu'ils estiment que ce ministère, en réalité, c'est leur ministère, mais c'est les gendarmes qui dictent leur loi là-bas. Et aujourd'hui, finalement, ils ont leur cadre qui font des entrées, donc ils se réjouissent là et ils espèrent que cette fois-ci, un travail sérieux sera fait pour que les ordonnances, les décrets d'application soient pris par rapport à leur statut. C'est très important. Je crois que ceux qui sont nommés vont travailler dans ce sens-là et les policiers seront davantage revalorisés.
D'accord. 30 secondes, Gabin.
Oui, j'aimerais interpeller les PAM sur un fait qui se déroule actuellement au grand marché de Lomé. Au niveau de l'UTB centrale, il y a un gros trou à ce niveau, tellement que il y a des véhicules qui ne passent plus par là, devant juste l'UTB centrale, il y a des véhicules qui ne passent plus, les dames n'arrivent plus à vendre, et pire encore, il y a une odeur nauséabonde qui sort de ce gros trou-là. Je pense qu'il va falloir régler ce problème. Ça existe depuis plus de 6 mois, hein, et au jour le jour, ça s'empire. Il va falloir régler ce problème-là au plus vite. Les fêtes de fin d'année approchent. Il va falloir que les dames-là, qui paient les tickets malgré le fait qu'elles ne vendent pas, il va falloir qu'elles rentrent au moins en possession de leur fonds.
Merci beaucoup, Gabin. Docteur Radi, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, c'est vrai que pratiquement, il y a beaucoup d'hommes qui ont participé à cette émission. Il n'y a qu'une seule femme, c'est Madame Essy. Mais ces hommes qui ont participé à l'émission, ils ne se sont même pas prononcés alors sur la question des maladies de la prostate. Or, ça les concerne plus, hein?
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça mon petit conseil. Les hommes n'ont qu'à maintenant reconnaître que ce qui les tue, c'est la prostate. Parce que quand on a un moyen quelque part, va documenter, va fouiller voir. C'est la prostate qui l'a fait partir.
D'accord.
Quelquefois, ça se dit, quelquefois, ça ne se dit pas. Mais c'est la prostate qui est maintenant devenue la première cause de mortalité chez les hommes, surtout en matière de cancer.
D'accord.
Et donc, il faut que les hommes prennent conscience et qu'ils fassent leur dépistage, qu'ils prennent soin de leur prostate.
D'accord.
Nous sommes là pour les aider.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Aradi Kossi. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif alors de l'association Aigle Africa International et aussi vous êtes spécialiste des maladies de la prostate. Merci d'être venu alors nous expliquer beaucoup sur ces maladies alors de la prostate. Merci, cher confrère. Germain Pouli, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil. Thierry Afanoukoué, merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal Gapola et merci à Gabin Adjaro d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes juriste et vous nous apportez toujours des informations ou votre touche juridique dans cette émission sur des sujets. Merci d'être passé. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Sachez que dans les kiosques ce matin, vous pouvez retrouver le journal Temps Nouveau, l'Union pour la Patrie et aussi le journal Le Populiste et ces journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Merci à tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Et Kiki Sousa a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end.